Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Nous pouvons être sûrs que le portrait que nous avons de Jésus dans les évangiles est conforme à qui est Jésus encore aujourd'hui. Avant la prédication, je souhaite vous donner quelques nouvelles parce que je vous l'avais en quelque sorte promis il y a 2 semaines lorsque j'ai apporté la prédication. De ce couple, Marc et Myriam, dont je vous avais parlé, qui ont vécu un miracle. Jésus a fait des miracles, et il en fait encore aujourd'hui, s'il est le même. Et suite à ce miracle qu'ils ont vécu, ils sont aujourd'hui prêts et ouverts à entendre l'Évangile. Ils veulent en savoir plus. Marc, qui était athée, d'après ses propres mots, est en train maintenant de lire l'Évangile de Jean. Et on a un prochain rendez-vous prévu chez eux mi-septembre, car pour l'instant ils sont encore en vacances. Lorsqu'ils sont arrivés dans mon bureau, pour la première fois que je les ai rencontrés, j'étais pressé vraiment de leur annoncer l'Évangile, un petit peu stressé peut-être aussi, mais en même temps dans une grande joie, en me disant là il y a une ouverture, et puis c'est vraiment incroyable une ouverture comme ça qui tombe vraiment du ciel. Et j'avais pris du temps, du coup, pour prier. Et j'avais même relu un petit livre avec différentes façons de présenter l'Évangile. Je me suis dit, selon la discussion, comme ça, je ne serais pas prise au dépourvu. D'ailleurs, je vous recommande ce livre qui s'appelle « J'ai une bonne nouvelle pour toi ». Je l'ai vu, il est à la bibliothèque. Mais Dieu m'a fait comprendre aussi lors de cet entretien qu'il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas brûler les étapes. La conversion, c'est aussi un chemin. Et c'est Dieu qui convainc les cœurs, c'est pas à nous de convaincre le cœur, on peut être un outil dans ses mains. Et le chemin de foi de Marc et de Myriam commence seulement, ils vont petit à petit comprendre qui est Jésus, en lisant l'évangile de Jean, que Jésus est celui qui veut guérir aussi leur cœur, et que Dieu est tout puissant pour faire son œuvre en son temps. Nous sommes des outils dans sa main. Le texte que nous allons prendre ce matin aussi contient un miracle que Jésus a fait et contient aussi cette dimension du temps de l'œuvre de Dieu en nous. Nous allons lire comment Pierre, le disciple Pierre, a été appelé. Et nous allons prendre ce texte dans l'évangile de Luc, car c'est cet évangile qui nous rapporte la fameuse pêche miraculeuse, un miracle surprenant. Qui a aussi contribué à ouvrir le cœur de Pierre. Je vous invite du coup à la lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, je vous en ferai la lecture dans la Bible du Semeur. On ne va pas lire tout le chapitre. Voilà, on va lire les versets 1 à 11. Un jour, alors que Jésus se tenait sur les bords du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu, il aperçut 2 barques au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et nettoyaient leurs filets. L'une de ces barques appartenait à Simon. Jésus y monta et lui demanda de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit dans la barque et se mit à enseigner la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large, en eau profonde, puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. »« Maître, lui répondit Simon, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais puisque toi tu me le demandes, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent tant de poissons que leurs filets menaçaient de se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci arrivèrent et l'on remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. En voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » En effet, il était saisi d'effroi, ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. » Dès qu'ils eurent ramené leur bateau au rivage, ils laissèrent tout et suivirent Jésus. Vous avez peut-être déjà entendu une prédication sur ce texte, ou bien vous avez entendu cette histoire au culte des enfants, à l'école du dimanche, ou bien vous l'avez lue peut-être dans votre Bible, ou vous la découvrez ce matin. C'est un des miracles les plus connus de Jésus. Et c'est aussi un des miracles qui est des plus représentés dans l'art, et notamment dans l'art pictural, ça se dit ça, oui, de la peinture en tout cas. Et je voudrais vous montrer quelques tableaux inspirés de ce texte. Alors ce premier tableau s'intitule « La pêche miraculeuse ». Il date du 15e siècle, c'est un ancien tableau de Konrad Witz, que je ne connais pas, mais qui est considéré, ce tableau, comme le premier tableau dans l'histoire de l'art qui comporte un paysage réaliste. Et là, Jésus se trouve sur le Léman, près de Genève, et au loin, on voit le mont Salève ainsi que le Môle, et c'est une partie en fait d'un retable qu'on peut admirer au musée d'art et d'histoire de Genève. Un deuxième, anonyme, celui-là du 4e quart du 17e siècle, qui est conservé au musée des Beaux-Arts de Rennes. Il n'est pas forcément très connu, mais vous verrez qu'il a inspiré un autre tableau. Retenez bien un peu cette image dans votre tête. Tout à l'heure, on en verra un autre qui, presque comme deux gouttes d'eau, lui ressemble. C'est un Français qui a copié. Un troisième qu'on peut voir là, un petit peu différent aussi, troisième quart du XVIIe siècle, de Gaspard de Crayères, qui est donc dans le musée des Beaux-Arts à Lille. On peut regarder le quatrième. Alors celui-ci, c'est ce qu'on appelle, vient d'une série de tableaux de Raphaël, du célèbre peintre Raphaël, et on appelle cette série de tableaux les dessins, alors c'est des dessins quand même élaborés, du peintre qu'il a réalisé entre 1515 et 1516, et à partir de ces dessins ont été faits des tapisseries de la chapelle Sixtine de Rome. Et on peut voir en tout cas ces dessins à Londres, alors c'est un peu loin ça par contre. Et alors le Français qui a copié, voilà, ça ressemble étrangement au tableau anonyme qu'on a vu juste avant. Donc ça c'est un Jouvenet, début du 18e, conservé au musée du Louvre, et donc c'est un énorme tableau au Louvre, si vous l'avez déjà vu, il fait 4 mètres sur plus de 6 mètres de large. Voilà, pour les diapos, on peut s'arrêter là, il y en aura d'autres dans la suite. Que dire, alors, après ces œuvres d'art, sur ce texte qui a inspiré des gens dans toute l'histoire, au point que certains ont passé des heures, des journées, des mois peut-être, à élaborer une œuvre d'art à partir de ce texte. Que dire sur ce texte? Ce récit peut-il encore aujourd'hui nous parler, nous toucher? Tout d'abord, il s'agit de l'appel de Pierre, et cet appel va bouleverser sa vie. Dans la Bible, vous le savez, nous avons plusieurs fois des récits d'appel, on peut aussi appeler récits de vocation. C'est le cas pour Moïse, Samuel, Ésaïe, Ézéchiel et d'autres encore. Ils sont appelés par Dieu pour une tâche particulière. Et plusieurs fois dans ces récits d'appel que nous avons dans la parole de Dieu, il y a un événement marquant qui accompagne l'appel. Pour Moïse, Dieu se révèle dans un buisson ardent, un buisson qui brûle sans être consumé. Et il doit même enlever ses sandales car la voix de Dieu lui signale qu'il se trouve en présence du Dieu saint. Pour Samuel, c'est différent. Il entend par 3 fois dans la même nuit la voix de Dieu qui l'appelle Samuel. Ésaïe ainsi qu'Ézéchiel reçoivent respectivement une vision du trône de Dieu et de la gloire de Dieu. Et on pourrait allonger encore la liste. Dans notre texte, nous avons un récit d'appel ou de vocation, Et la chose extraordinaire qui vient confondre Pierre et les témoins, c'est le miracle de la pêche miraculeuse. Et son appel, c'est de suivre Jésus. Les prophètes recevaient un appel pour rappeler au peuple la loi de Dieu, pour rappeler sa justice. Ils enseignaient également le peuple sur l'amour de Dieu, sur la foi, la miséricorde. Et en faisant tout cela, leur but était aussi d'annoncer la venue du Messie, celui vers qui pointent beaucoup de leurs paroles prophétiques. Mais dans notre texte, c'est différent, puisque le Messie, il est là, en chair et en os. Jésus, Pierre le voit de ses propres yeux, et son appel, l'appel que Pierre reçoit, n'est pas de suivre une parole donnée, suivre une parole donnée par les prophètes, mais suivre la parole incarnée, le Fils de Dieu venu dans le monde. Et sa réaction ressemble à celle des prophètes avant lui. Il s'agenouille aux pieds de Jésus et lui dit « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Moïse avant lui avait dit « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Ésaïe avait dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. La position de Pierre à genoux rappelle également celle d'Ézéchiel, qui est tombé face contre terre pendant sa vision. Ces éléments, qui sont des parallèles bibliques, sont là pour nous indiquer que nous avons un appel qui est adressé à Pierre. Et quel appel ? Celui de devenir disciple de Jésus-Christ, devenir disciple de celui que les prophètes ne faisaient qu'annoncer. L'appel de Pierre est plus grand encore que l'appel des prophètes. Et nous, dans tout ça, qu'avons-nous reçu comme appel ? Comment avons-nous réagi à l'appel de Dieu ? Pierre, dans notre texte, se trouve au pied de Jésus après avoir reçu son appel. Qu'en est-il de nous qui avons été appelés aussi à le connaître, à le servir de diverses manières ? Se lever pour Dieu, c'est finalement se mettre à genoux, au pied du Seigneur Jésus. Dans la réaction de Pierre, il y a une phrase qui n'est pas évidente à comprendre, c'est quand Pierre justement dit à Jésus « Éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Je ne sais pas si ça vous surprend d'entendre cette parole. En tout cas, moi, ça me dérangeait un petit peu de lire « Éloigne-toi de moi. » Est-ce simplement par humilité que Pierre dit cela, parce qu'il reconnaît que Jésus est plus puissant que lui, ou y a-t-il quelque chose de plus profond dans cette parole ? Alors tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que Pierre ne dit pas seulement qu'il est faible, qu'il est limité en tant qu'être humain. Il reconnaît qu'il est pécheur. Il ne dit pas non plus « Ah Seigneur, je viens de commettre un péché, je n'ai pas encore confessé ce péché, je ne t'ai pas encore demandé pardon. » Non, il s'agit de reconnaître son état d'homme pécheur. Pierre reconnaît son état d'homme pécheur. Et j'ai envie de dire merci Pierre pour cette leçon d'honnêteté. Combien de fois dans nos prières nous confessons notre faiblesse, nos limites, au lieu de reconnaître au fond que le problème le plus important que nous avons, c'est notre péché. Et c'est notre péché qui nous empêche d'avancer. Nos limites, elles sont même, en tout cas, probablement pour beaucoup d'entre elles, sont bonnes et voulues par Dieu. Nous sommes des créatures limitées et lorsque Dieu nous a créés, il a dit que cela était bon. Le péché n'est pas simplement une faiblesse ou une limite. Le péché, c'est le fait de résister à ce que Dieu nous demande et à ce que Dieu veut pour nous. Et cette résistance, elle est intérieure, c'est la résistance de notre cœur. Le péché, ça n'est pas tant franchir une ligne rouge que de ne pas laisser Dieu être aux commandes de notre vie et de notre bus, comme on l'a entendu dans une prière. C'est cela le péché, c'est ne pas laisser Dieu conduire. Un professeur que j'avais à la fac de Vaux-sur-Seine disait que notre cœur, le cœur de l'homme, c'est comme une Formule 1, c'est-à-dire qu'il n'y a de place que pour un pilote. C'est une monoplace. Notre cœur est monoplace. Qui est assis aux commandes de mon cœur? Est-ce que c'est moi ou Jésus? Dietrich Bonhoeffer, dans son excellent commentaire des premiers chapitres de la Genèse, relève ce détail. Il relève ce détail qu'on relève pas très souvent, que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était interdit à Adam et Ève, cet arbre était au centre du jardin. Et cet arbre n'était pas situé en périphérie du jardin. Et de ce petit détail du texte, il en déduisait que le péché, la transgression, la désobéissance, concerne le centre de notre vie et non les limites. Est-ce que je pêche si je vais jusque-là? N'est sans doute pas la bonne question à se poser. Posons-nous plutôt la question, est-ce que je suis en plein cœur de la volonté de Dieu si je fais cela? Vous avez sans doute déjà entendu que le mot péché en hébreu signifie rater la cible. Alors quand on dit ça, c'est un petit peu un raccourci. En réalité, on devrait, si on voulait être précis, on devrait dire que le mot, un des mots déjà en hébreu qui désigne le péché, puisqu'il y en a plusieurs, vient d'une racine verbale qui signifie effectivement, dont un des sens signifie rater la cible. Mais très souvent, l'homme ne rate pas la cible parce qu'il veut, il a l'intention de viser la cible et il la loupe comme à la journée portes ouvertes au stand de tir à l'arc. Notre but, mon but en tout cas, était de viser bien évidemment le centre de la cible, mais il m'est arrivé, dans plusieurs tirs, de même louper la cible de quelques centimètres. Mais le péché, ce n'est pas « je vais viser le cœur de la cible, ah zut, je l'ai loupé ». Le péché, c'est carrément « je tourne le dos à la cible et je tire mes flèches dans la direction opposée et je le fais délibérément ». Mais nous n'avons pas encore tout expliqué. Pourquoi Pierre, qui reconnaît son état d'homme pécheur, demande que Jésus s'éloigne de lui? Ne devrait-il pas plutôt lui dire « Viens vers moi, car je suis un homme pécheur et j'ai besoin de ton aide ». Oui, il pourrait dire cela, mais à ce moment précis, Pierre a non seulement conscience de son péché qu'il reconnaît, mais aussi de la sainteté de Jésus. Il comprend qu'il y a un fossé, quelque chose qui sépare cette sainteté parfaite et son état d'homme pécheur. Et cela lui donne même de la crainte ou de l'effroi, comme cela est dit au verset 9 selon les traductions. Et le verbe qui est utilisé par Pierre aussi pour dire « éloigne-toi de moi », on le trouve 20 versets juste avant, dans Luc, au chapitre 4, le verset 35, lorsque Jésus, lui, parle à un homme qui est possédé, et parle plutôt au démon qui possède cet homme, et lorsque Jésus dit « sors de cet homme ». Et c'est la même forme d'ailleurs en plus verbale, c'est aussi un impératif, hein, « éloigne-toi ». De cet homme et sort de cet homme, c'est exactement le même mot en grec, même pas 20 versets avant. Et la réaction des témoins de cet exorcisme fut justement la crainte ou l'effroi, exactement même mot que dans notre texte, mot qui par ailleurs est très rare dans le Nouveau Testament, on ne le trouve que 3 fois dans le Nouveau Testament, donc une fois dans Luc 4, une fois dans Luc 5 et je crois une autre fois dans le livre des Actes. Donc par 2 fois, on a cette suite, « éloigne-toi de moi » ou « sors de cet homme » suivi d'une réaction d'effroi. Luc veut nous apprendre que la sainteté de Jésus est telle que lorsque nous réalisons qui il est, nous sommes saisis par la crainte, une crainte juste, qui n'est pas la peur, à cause de notre péché. Comme le dit le commentateur Godet, chaque fois que la sainte puissance divine sort de l'abstraction et tombe pour nous dans le domaine des faits, elle réveille le sentiment de péché et par conséquent de la crainte. Avons-nous conscience de notre péché et de la sainteté de Jésus? Ce texte nous interroge encore aujourd'hui. Quelle est ma posture devant Dieu? Suis-je conscient de mon péché? Comment est-ce que je réponds à l'appel de Dieu? Et on peut encore ajouter à toutes ces questions, qui est Jésus pour moi? Dans notre texte, le miracle de la pêche miraculeuse ainsi que l'appel ont transformé Pierre. Et on voit même, ceci est un tout petit détail, c'est que Pierre appelle Jésus Seigneur au verset 10, alors qu'au verset 5, pour désigner Jésus, il utilise un autre mot qu'on pourrait traduire par maître. Le maître, c'est celui qui enseigne. Mais le maître du verset 5 devient le Seigneur du verset 10 lorsque Pierre se met à genoux devant lui. Le mot Seigneur, d'ailleurs utilisé ici, est à prendre au sens fort. C'est une façon de reconnaître la divinité de Jésus. Pierre s'agenouille, non pas devant un simple homme, mais devant un homme qu'il reconnaît pour être le Seigneur. La réponse à la question « Qui est Jésus ?» est lourde de conséquences. Les trois grandes religions monothéistes sont divisées sur la réponse qu'il faut donner à cette question. Pour les Juifs, Jésus n'est pas le Messie qu'il a prétendu être. Pour les musulmans, Jésus est un prophète parmi d'autres et il n'est pas non plus le plus grand des prophètes. Pour les chrétiens, Jésus est le Seigneur. Cette dernière affirmation change tout, car de cette affirmation, Jésus est Seigneur, va découler toute la vie du disciple de Jésus. Je vais vous montrer encore une autre photo maintenant. Il s'agit, voilà, de la photo d'une barque qu'on a retrouvée lors de fouilles archéologiques dans une ville au bord du lac de Galilée, donc le lac de Galilée, le lac de Génézareth, etc. Ça, c'est le même endroit, hein. La mer de Galilée, voilà. Et en plus, d'après les spécialistes, cette barque qu'on a retrouvée date du 1er siècle. Alors, il n'y a pas grand-chose pour dire que c'était la barque de notre texte, mais je n'irai pas jusque-là. Nous avons un bel exemple de ce à quoi pouvait ressembler, en tout cas la barque dont il est question dans notre texte. Et ces barques sont quand même assez grandes. On peut mettre jusqu'à 600 kilos de poissons, soit l'équivalent d'ailleurs de ce que pouvait contenir au maximum à l'époque un filet de pêche. Aujourd'hui, nos gigantesques filets modernes, pas toujours d'ailleurs respectueux de la création, peuvent contenir 15 tonnes. Jésus dit à Pierre qu'il sera pêcheur d'hommes. Que veut dire Jésus lorsqu'il dit à Pierre qu'il sera pêcheur d'hommes? Le prophète Jérémie avait déjà utilisé une image semblable pour dire justement le désir de Dieu que son peuple soit rassemblé comme des poissons dans un filet. En Jérémie 16, versets 15 et 16, on lit, et c'est des paroles dans la bouche de Dieu, « Je les ramènerai sur la terre que j'avais donnée à leur père. Je vais envoyer quantité de pêcheurs qui les pêcheront. » Donc en fait, Jésus, très probablement, qui avait une bonne connaissance de l'Ancien Testament, reprend cette image pour dire, cette mission que Dieu fait, il la fera avec mes disciples. Jésus, hein, disait ça. En fait, par cette parole, Jésus annonce qu'une des missions de Pierre sera d'annoncer la bonne nouvelle, de prendre soin de ceux qui répondront positivement au message de l'Évangile. Il s'agit de rassembler le peuple que Dieu s'est choisi pour le ramener dans la barque, être pêcheur d'hommes. Et certains commentateurs estiment que dans ce cas-là, on pourrait dire que la barque, c'est l'Église, est une image de l'Église. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de piéger les gens et puis ensuite de les forcer avec notre filet à venir à l'Église. Il s'agit d'un filet d'amour, un peu comme lorsque Dieu parle à propos de son peuple dans le livre du prophète Osée et qu'il dit « Je les tirerai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour ». La mission des disciples, c'est d'entrer dans la mission de Dieu pour l'humanité. Et cette pêche miraculeuse est large. Les filets sont presque sur le point de craquer, les barques sont remplies au point qu'elles s'enfoncent, donc il y avait probablement 600 kilos, puisque c'est le maximum qu'il pouvait y avoir à l'époque. La mission qu'auront les apôtres et que nous poursuivons encore aujourd'hui est une grande mission. Et la pêche est aussi grande et ample. Dans cette mission, nous sommes à la fois des poissons, dans le sens que nous sommes au bénéfice aussi du salut, et des pêcheurs qui ont pour tâche d'annoncer le salut au monde. Et là, je vous montre une petite image un petit peu marrante. Mais effectivement, vous avez sans doute déjà remarqué que dans le Nouveau Testament, voilà, donc c'est un poisson qui pêche, on est à la fois des poissons et des pêcheurs. Mais c'est vrai, parce que dans le Nouveau Testament, il y a un texte moi, qui m'a toujours frappé. C'est dans le livre des Actes, chapitre 10, lorsqu'il est dit, lorsque c'est le texte où c'est la conversion de Corneille, en fait, Dieu parle à Corneille, à travers aussi un ange, etc. Et puis aussi Dieu parle à Pierre pour qu'ils se rencontrent et que de cette rencontre, en fait, Corneille puisse comprendre le plan de Dieu et son amour. Mais c'est l'œuvre de Dieu, on le comprend bien, mais en même temps, Dieu utilise aussi les hommes pour parler. Dieu souhaite que nous soyons aussi ses témoins et que nous entrions dans sa pêche à lui, mais il nous utilise. Alors dans notre mission, cette mission que le Seigneur nous a laissée, il peut nous arriver de nous épuiser. Il y aura des nuits que nous passerons à pêcher sans rien prendre, comme Pierre. Mais si l'on est capable de discerner la voix de Jésus et qu'on y obéit, nous pourrons être témoins de grandes choses. Alors, remarquez aussi que si Pierre n'avait pas obéi, il n'y aurait pas eu de miracle. Le miracle a eu lieu après l'obéissance. Pierre n'a pas dit « Oui, je veux bien te suivre ». Mais à condition que tu fasses un miracle pour moi. Le miracle a eu lieu après l'obéissance. Et cela me fait dire qu'on a tout intérêt à obéir à Dieu lorsqu'il nous parle, et il nous parle. Des fois, c'est nous qui n'entendons pas, mais Dieu nous parle. Et il nous parle notamment dans sa parole écrite. Il n'y aura pas toujours de miracle. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une petite foi en un grand Dieu peut accomplir de grandes choses. Et même des choses extraordinaires. Les apôtres étaient, avant de suivre Jésus, de simples pêcheurs. Et ils sont devenus des évangélistes ou des pasteurs dont l'œuvre est immense, tellement immense d'ailleurs qu'elle n'est toujours pas finie aujourd'hui. Alors si nous ne nous sentons pas à la hauteur pour cette mission et cet appel que Dieu nous adresse, tant mieux. C'est peut-être parce que nous sommes comme Pierre, à genoux, aux pieds de celui qui peut tout. Amen.